Bonjour à toutes et à tous. Voici la lecture intégrale du texte numéro 5. Son titre est « Qu'est-ce que le capitalisme climatique ?» publié dans Le Monde du 13 mai 2016. Dans son dernier ouvrage, le géographe et politiste suisse Romain Feli met en lumière l'idée de capitalisme climatique. Au lieu de lutter contre le réchauffement, les multinationales et les États optent pour une logique d'adaptation des sociétés humaines face à la dégradation croissante de l'environnement, une tendance qui est perceptible depuis les années 70. Les îles de l'archipel Salomon dans le Pacifique disparaissent presque en direct. La province de l'Alberta, au Canada, n'en finit pas de brûler depuis le 1er mai. Y a-t-il une réelle volonté des États et des sociétés d'enrayer le réchauffement climatique? Géographe et politiste suisse, Romain Feli en doute et voit plutôt se profiler depuis des années une logique d'adaptation qui servirait à un capitalisme climatique. Dans un essai percutant, La grande adaptation, climat, capitalisme et catastrophe, il met en lumière ce qu'il estime être un renoncement. Question. En introduction de votre livre, vous reprenez une formule de l'historien et sociologue américain Jason Moore qui préfère le terme de capitalocène à celui d'anthropocène. Le terme d'anthropocène signifie que nous traversons une ère où les êtres humains dans leur ensemble seraient devenus une force géologique agissant sur la planète Terre. Nous serions tous, en tant qu'espèce, également responsables des crises écologiques. Or, une telle vision efface complètement les responsabilités incomparables des différents peuples et des différentes classes sociales. Pire, elle empêche de comprendre la nature de l'économie monde capitaliste et de son écologie particulière depuis près de 5 siècles. La crise climatique serait donc davantage une crise de la manière capitaliste d'organiser la nature. Depuis la révolution industrielle et le choix des énergies fossiles, les industries capitalistes contribuent à relâcher des quantités phénoménales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui provoquent des bouleversements considérables. Or, ces changements climatiques déstabilisent en retour les conditions dans lesquelles les entreprises fonctionnent en renchérissant, par exemple, le coût de reproduction de la main-d'œuvre. Mais plutôt que de chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre, une fraction de la classe capitaliste plaide pour que les sociétés s'adaptent constamment à la dégradation croissante de l'environnement. Les négociations internationales sont-elles le reflet de cette renonciation? C'est très clair quand on examine les conférences internationales qui se sont déroulées ces 30 dernières années. Au sommet de la Terre à Rio, en 1992, déjà tous les États, y compris les États-Unis, reconnaissait l'existence d'un réchauffement climatique dangereux et la nécessité de le limiter. Or, que constatons-nous un quart de siècle plus tard à la COP21 de Paris? Les mêmes grandes déclarations larmoyantes, mais aucune réduction contraignante des émissions de gaz à effet de serre. En matière de réduction, nous sommes quasiment au même point qu'il y a 25 ans, par refus de s'attaquer au pouvoir des entreprises pétrolières. Par contre, on peut constater dans ces mêmes cercles internationaux une montée en puissance de l'objectif d'adaptation aux effets du réchauffement climatique. Nous verrons ce que donnera la COP25 à Madrid, qui s'est ouverte le 2 décembre 2016. C'est ce que vous nommez la grande adaptation. On s'interroge de plus en plus sur les moyens de rendre les effets de ce réchauffement climatique acceptables. Au lieu d'être un obstacle pour le capital, le réchauffement climatique lui permet de s'étendre à de nouveaux secteurs, notamment dans les pays au développement. Récemment encore, le secrétaire général des Nations Unies, dans une initiative pour la résilience climatique, préconise un système de micro-assurance très libéral. Ce n'est plus une solidarité nationale via l'État qui protège les petits paysans face aux mauvaises récoltes induites par les changements climatiques, mais les assureurs privés. Cette idée de l'adaptation n'est pas nouvelle, elle était déjà perceptible dans les années 70. Dès cette époque, des climatologues et économistes américains expliquent en effet qu'il n'est pas réaliste de vouloir s'opposer aux entreprises liées au système pétrolier. Et certains réfléchissent aux moyens de survivre en l'absence d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc aux façons de s'adapter, par exemple en planifiant des réserves de grains pour répondre aux famines prévisibles ou en encourageant la recherche agronomique pour qu'elle développe de nouveaux plants plus résistants aux variations climatiques. Cette théorie de la grande adaptation reflète aussi un certain malthusianisme. Quand Malthus écrit son essai sur le principe de population en 1798, il y décrit le décalage entre la croissance de la production alimentaire et la croissance démographique. La population augmente beaucoup plus vite que la production de denrées alimentaires. Les pauvres qui ne contrôlent pas les naissances créent ainsi eux-mêmes les conditions de leur propre pauvreté. Ces explications conservatrices ont perduré tout au long du XIXe et du XXe siècle. Et cette idée connaît une nouvelle jeunesse avec l'émergence d'une pensée environnementaliste dans les années 1950 et 1960. La plupart des auteurs passés aujourd'hui à la postérité, comme les initiateurs de la pensée environnementaliste globale tels Fairfield Osborne ou Paul Ehrlich, sont des Malthusiens militants. Pour eux, la surpopulation de la planète est la principale explication de la dégradation de l'environnement. Or, le malthusianisme écologique produit une biologisation du social. Il dépolitise les questions économiques comme les questions écologiques. Il a par exemple servi en réaction aux luttes de libération nationale des pays du Sud. Les pays nouvellement décolonisés, souvent dirigés avec une orientation socialiste, ont été désignés comme incapables de contrôler leur population et leurs ressources. L'intervention de pays impérialistes dans leurs affaires internes a ainsi parfois été justifiée au nom de l'environnement. Vous montrez que les économistes vont ainsi participer à la formulation et à la diffusion de cette notion d'adaptation. Ce sont les économistes qui vont tirer le discours environnementaliste vers celui de la grande adaptation. Les néolibéraux vont surtout conditionner ce principe à la flexibilité. Il faut, argumente-t-il, que les sociétés soient souples pour surmonter catastrophes naturelles et autres changements climatiques à venir. Plus une société fonctionnera selon une logique de marché, mieux elle s'adaptera. Ils vont donc préconiser le moins d'État, moins d'administration publique et moins de contraintes d'ordre socio-économique. Cette argumentation va se mettre en place au cours des années 80. Fin de la lecture intégrale du texte 5. Je vous remercie de votre attention.